sur RFI. Avec Suno Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, Priorité Santé vous emmène dans la région de Kolda, en Casamance, l'une des régions les plus enclavées et les plus pauvres du Sénégal. Difficile d'avoir accès à des soins de qualité dans cette partie du pays, située entre la Gambie et la Guinée-Bissau. Sur place, l'essentiel manque. L'essentiel, c'est-à-dire des infrastructures de santé dignes de ce nom, comme du personnel qualifié. Ajoutez à cela des problèmes de route, de transport qui isolent davantage la population, des coupures d'électricité qui les privent d'accès à l'information. Le constat est sans appel, une situation désolante qui confère à la Casamance le triste record de mortalité maternelle et infantile pour l'ensemble du Sénégal. Et alors qu'elle baisse partout dans le pays, cette vulnérabilité extrême des mères, des enfants peine à se stabiliser dans cette région de Kolda. Autre chiffre édifiant, autre tendance, plus de la moitié de la population vit à une heure de route d'un centre de santé, souvent sous-équipé. Conscient des besoins de cette région, le Sénégal l'a donc érigé en zone prioritaire. Mais pour quel résultat ? L'arrivée tardive d'un pédiatre ou d'un gynécologue pour une population estimée à 800 000 habitants peut-elle changer les choses ? Les messages de prévention sont-ils adaptés à la jeune génération connectée ? Pour comprendre les enjeux de la santé maternelle, notre reporter Igor Strauss s'est rendu dans les différentes structures de soins de la Haute-Casamance, des petites cases de santé isolées à l'hôpital principal de Kolda. Voici son reportage réalisé en partenariat avec le Fonds français Muskoka. Un reportage qui nous emmène tout d'abord dans la petite case de santé d'un village difficile d'accès. Il se trouve en effet à 15 km d'un poste de santé mieux équipé. Et depuis 15 ans, la matrone Salimatou Gala travaille jour et nuit bénévolement pour venir en aide aux femmes de Diatafa et aux sept autres villages des alentours.
Ici, moi, je fais ici les accouchements inopinés. Mais les accouchements inopinés, c'est là-bas. Au poste de santé. Je fais des soins à domicile, les mères avec les nouveau-nés. Si le nouveau-né a des cas de danger, je vais référer au poste de santé.
Et il est où le poste de santé?
Il est à Menachérif, à Nambé, Mampati. C'est au Goudron.
Ah, donc c'est loin déjà?
C'est loin. Parce que si c'est une femme enceinte, si elle a un travail ou bien elle a des saignements, des cas de gravité, pour référer jusqu'au poste de santé, il y a des problèmes. Parce qu'on n'a pas d'ambulance, on n'a pas de voiture, il y a les problèmes de moto ni charrette. Ici, la route là, il y a de l'eau. Pour passer une charrette, pour amener une femme enceinte ou bien un nouveau-né, il y a des problèmes d'aller arriver au poste de santé. Parce que j'ai un cas ici, en 2012, la femme a saigné. On a amené à Anambé pour arriver à Anambé, l'enfant a décédé. Voilà.
Commune Asep Bande, Darga Sarayo Banyama. Mi salmini mabuyiko na seda. Minjeti Allah minjeti.
Assalamu alaikum. Avant tout, je salue tout le monde. Je vous salue parfaitement, vous les étrangers. Et je vous dis soyez les bienvenus. Aujourd'hui à Diatafa. Moi, je m'appelle Asset Balde, chef de village de Sarayo Banyama. Je suis le dernier village donc, de la commune de Medina Chérif. Les problèmes ici, qui sont là, c'est les problèmes de santé, problèmes de route, problèmes d'électricité qui sont là dans nos communautés. De mon village jusqu'à Medina Chérif, ça fait plus de 15 km. Imaginez-vous une femme enceinte qui doit être au poste santé d'ici environ 10 minutes ou 15 minutes. Il faut qu'on la mette en moto. Quand la moto fait un choc et il tombe, je pense que c'est un problème pour la femme enceinte. parce que il y a pas une femme enceinte qu'on amène ici à une référence de cette case jusqu'à notre poste, la femme enceinte ne soit pas tombée entre temps. De cette distance, même si c'est une seule fois ou deux fois, elle va tomber. Car c'est les problèmes de la route. Donc, nous vous sollicitons un poste de santé. Moi, là où j'habite, il y a une case de santé, il y a une case de santé du Moïse, mais il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien dans la case. Donc, nous allons mourir.
Bonjour, madame.
Yamta.
Ça va. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de la santé des femmes et des enfants de façon générale ici dans le village?
La santé des enfants et les mères, c'est un peu critique parce que ils ont quelqu'une qui peut traiter, mais il n'y a pas les médicaments. Parce que même lors des accouchements, ce qu'on dit, il y a beaucoup de médicaments qu'on doit faire pour le nouveau-né. Mais si les médicaments ne sont pas là, alors la matrone ne peut pas les effectuer. Oui.
Alors, est-ce que cette matrone vous arrange, vous les femmes? Est-ce que ça a permis quand même d'améliorer un petit peu la condition des femmes ici?
Elle nous a fait changer de comportement. Elle fait ici des VAD, des visites à domicile. Elle fait des causeries sur toutes les maladies presque qui sont là présentes. Elle fait des mobilisations sociales. Donc, on ne peut pas vous dire ses importances. La matrone AEC, les relais qui sont là présents, ils sont très importants envers la population.
Ouais.
Notre agent de santé, moi, AEC matrone, il se fatigue jour et nuit et il n'a ni motivation ni salaire. Il ne perçoit aucun franc de son travail. Donc, quand on a quelque chose au moins à lui donner, nous serons très fiers, très contents.
Et alors là, je vois aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui se sont réunies avec tout un petit carnet jaune. C'est le carnet de l'association des villageoises. En fait, c'est une sorte d'épargne villageoise. En quoi c'est important ça pour vous, les femmes? Concrètement, comment ça marche et qu'est-ce que ça vous permet de faire?
Bon, cette épargne que vous dites ici, on appelle ça nous avec. On cotise ça par semaine ou mensuellement. Jusqu'à un certain moment donné, on partage l'argent. Par exemple, quelqu'un qui accouche. Quand la personne accouche et il n'a pas quelque chose à acheter, donc on enlève à la caisse de sécurité sociale pour vraiment motiver la personne qu'il puisse régler son problème.
Mais là, vous parlez des accouchements. Et moi, je pensais que les accouchements, c'était gratuit ici au Sénégal.
C'est gratuit, l'accouchement. Mais pour avoir d'abord un moyen de transport, si c'est une moto, il faut que tu payes de l'essence. Le savon, ce n'est pas quelqu'un qui va te payer du savon. C'est toi-même qui va te payer du savon pour toi. L'épargne dont tu vas utiliser après l'accouchement, pour le saignement, c'est tes propres pagnes. Donc, malgré c'est gratuit, mais il y a des frais que tu vas effectuer lors de l'accouchement.
Merci. Bonjour.
Bonjour. Ça va? Je suis Moussa Bayane. J'ai fait ici 13 ans. Les difficultés qui sont ici, j'en ai vécu. Le palud ici et les maux de ventre, c'est les maladies qui fatiguent ici la population. Et même nous, au niveau de l'école, on reçoit beaucoup d'absences à cause de ces maladies. Et les médicaments sont rares ici. On veut ici même avoir le petit paracétamol le moins cher ici. C'est des difficultés, on ne peut pas l'avoir.
Alors juste, donc vous êtes enseignant, c'est ça?
Oui.
Est-ce que tous les enfants des villages avoisinants vont à l'école ou pas?
Oui, mais c'est que au début ils vont, mais ils finissent par abandonner. Dès qu'en classe de CE2, CM2, ils abandonnent parce que le déplacement, les écoles sont un peu éloignées. Quand ils quittent l'école primaire pour aller au CM, c'est à des distances 7 km. Donc, s'il y a de quoi aider la population là, surtout en santé, ça va mieux. Parce qu'un enfant, pour qu'il puisse aller à l'école, il faut qu'il soit en bonne santé. Et donc ça, c'est un grand problème ici. Les parents jusqu'à présent, ils ne comprennent pas, ils n'aperçoivent pas l'intérêt de l'école. C'est ça le problème ici.
Alors du coup, on dit que la santé, c'est aussi une question d'éducation. Donc c'est le fait que ces enfants abandonnent tôt l'école, est-ce que ça se ressent sur leur santé en général?
Évidemment.
Je pense notamment aux grossesses précoces, à l'accès à la contraception, à la connaissance de son corps et de la reproduction.
Évidemment, c'est ça. Vous avez touché du doigt le problème d'ici. C'est une personne qui n'est pas éduquée, il maîtrise difficilement des choses. Comme vous dites, grossesse précoce, les mariages précoces, tout ça, c'est des freins de l'école. Je ne sais pas quelle politique monnaie pour que les enfants puissent rester à l'école au moins une quinzaine d'années. Un enfant qui a fait 15 ans de banc, au moins il a quelque chose dans la tête pour pouvoir vivre décemment.
Mais là, ce n'est pas le cas.
C'est pas, malheureusement. Malheureusement, ce n'est pas le cas. L'enfant, il n'a d'informations. On a que nos radios communautaires. Et ici, il n'y a pas de courant, il n'y a rien. Sinon, que les gens qui se paient un petit panneau solaire, à part ça, c'est tout. Donc ici, l'information ne passe pas.
Merci beaucoup.
Ok, voilà, merci. C'est la RFI.
C'est la RFI.
La radio leader. Voilà. Merci.
Igor Strauss, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
On l'a entendu à travers ces différents témoignages, hein, les besoins des habitants de ces zones reculées sont énormes dans un tel contexte. Que peut changer la présence d'une matrone bénévole qui plus est avec si peu de moyens?
Eh bien, elle permet surtout aux femmes d'avoir accès aux consultations prénatales. Rappelons que dans la région de Kolda, plus de 50% des femmes font la première consultation très tardivement et elles sont une toute petite minorité à faire les 4 consultations requises au cours de la grossesse. C'est également la matrone qui se charge de la sensibilisation et enfin, elle s'occupe des accouchements inopinés, comme elle le dit elle-même, pour les nombreuses femmes qui ne peuvent pas se rendre dans une structure de santé mieux équipée. Le but, Caroline, vous l'avez compris, c'est de rapprocher les soins de la communauté. Le problème, c'est que ces matrones ne sont pas payées et du coup, beaucoup d'entre elles abandonnent.
Igor, comment expliquer un tel manque de moyens?
Eh bien, depuis 2013, l'État sénégalais s'est lancé dans une politique de décentralisation. Du coup, la santé et l'éducation ont été transférées au niveau territorial. Mais si le transfert de compétences a commencé, le transfert de ressources, lui, pose problème. On en reparlera un petit peu plus tard dans le reportage.
Alors justement, Igor, hein, qu'est-ce qui a été fait en termes de transfert de compétences pour améliorer les ressources humaines?
Eh bien, vous le rappeliez au début de cette émission, la région de Kolda possède enfin un pédiatre et un gynécologue, ce qui n'était pas le cas avant. Il y avait 6 sages-femmes en 2000, il y en a aujourd'hui 80. Alors, c'est peu évidemment, mais c'est un début. Et puis, le Sénégal souhaite doubler le personnel d'État, sages-femmes et infirmiers, dans les structures de santé. Selon Yaya Baldé, le médecin-chef de la région médicale de Kolda, c'est fait à plus de 60%. Et enfin, le pays souhaite densifier la carte sanitaire. À ce titre, toujours selon Yaya Baldé, les postes de santé ont doublé en 5 ans.
Alors dans la pyramide sanitaire, le poste de santé se situe juste au-dessus de la case de santé. Et Igor Strauss, vous êtes rendu à Ndorna. Pour cela, on emprunte une piste de 35 km à partir de Kolda pour rejoindre un poste de santé délabré où se retrouvent les 14 000 habitants de la commune répartis sur un ensemble d'une centaine de villages au total. Un infirmier et une sage-femme sont chargés de ce poste de santé. Ils supervisent également les soins dans les 10 cases de santé des alentours. Sérigne Sen, l'infirmier chef de poste.
Comme j'ai 10 cases de santé, donc ça fait 10 jours d'absence au niveau du poste de santé. Donc ce qui veut dire qu'il y aura des malades, des clients qui auront besoin de voir l'infirmier ou la sage-femme au niveau du poste. Ça va rester des problèmes dans la mesure où nous avons une zone très vaste à couvrir. Maintenant, il y a un problème sur les accouchements. Comment faire pour avoir les accouchements des femmes qui habitent à plus de 15 km? C'est des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas dire à une femme qui est à plus de 40 km du poste de venir accoucher au niveau du poste de santé avec quel moyen. Donc ça reste un problème. Si on respectait les normes, normalement la commune devrait avoir au moins 3 postes de santé. Parce que vu que là, les villages sont éparpillés, 103 villages, ce n'est pas petit. Donc du coup, les malades ne peuvent pas toujours avoir l'infirmière ou la sage-femme à côté. Ça reste toujours un problème. Ouais.
Non, monsieur. Bon, je retourne. On
parle mobile. Si c'est la salle de pansement.
Donc une toute petite salle avec un vieux lit qui a bien vécu déjà.
Ouais. Nous confrontons à des problèmes de moyens aussi, donc surtout du matériel. Donc, il y a les techniciens sont là. Maintenant, les matériels, ça manque un peu.
Un peu ou ça manque beaucoup, le matériel?
Le matériel, ça manque, parce que nous avons besoin aussi de d'autres matériels, vraiment concernant les tables de consultation et d'autres matériels de lit aussi, parce que nous, souvent, pour l'hospitalisation, nous avons toujours des problèmes, la mise en observation de nos patients. Ici, nous sommes en salle d'observation. Vous avez vu que...
Il y a une petite, petite fille qui est allongée.
Qui couvre 103 villages. Au niveau du dispensaire, il y a que ces trois lits-là qui sont disponibles.
Vous auriez besoin de combien de lits, par exemple?
Au moins 10. Ici, nous sommes au niveau du dépôt de pharmacie.
Mais est-ce que les ruptures de stock sont fréquentes ou est-ce que vous avez tous les médicaments dont vous avez besoin réel?
Oui, nous sommes dans l'initiative gratuité de la prise en charge, la couverture de maladie universelle, la CMU. Donc avec maintenant la prise en charge des enfants 0-5 ans, c'est toujours des problèmes. Donc pour avoir une disponibilité en produits pédiatriques, c'est des problèmes. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous donnons les médicaments là gratuitement. Donc ce qui veut dire que si l'enfant se présente avec une carnet de santé, l'enfant ne paie rien du tout.
Alors la couverture maladie universelle, la CMU, est-ce qu'elle a eu d'autres conséquences pour vous, petit centre de santé?
Oui, depuis 2017, nous n'avons pas encore reçu de remboursement de la dette. Donc ça tourne au coût de beaucoup de millions. Donc ce qui veut dire que ça fait sombrer le poste de santé parce que tu as besoin de toujours de ressources. Parce que nous sommes juste, le poste, ce n'est pas une grande structure. Donc tu as besoin de ces ressources-là pour s'approvisionner en médicaments. Et ces personnels-là qui ne sont pas des personnels de l'État, on les paye à travers des recettes du poste de santé.
Alors c'est paradoxal parce que la CMU, donc la couverture maladie universelle, est une très belle idée pour permettre aux gens d'avoir accès gratuitement aux soins, mais inversement, ça vous prive, vous, centre de santé, de certaines ressources, donc vous ne pouvez plus soigner comme avant les patients. Ça se retourne contre le patient?
Oui, exactement. Ça va causer des problèmes. Dans la mesure où si un patient vient au niveau du poste de santé et que les médicaments n'existent pas, moi je lui consulte, il va avoir la consultation, mais je serai obligé de mettre une ordonnance qui va... Elle va l'acheter au niveau de la pharmacie privée, dans la mesure où je ne dispose pas de ces médicaments.
Je suis le docteur Yaya Baldé, médecin chef de la région médicale de Kolda.
Depuis que le Sénégal a mis en place la couverture maladie universelle, de nombreux petits centres de santé se retrouvent fortement endettés en raison des retards de remboursement de l'État sénégalais, ce qui entraîne des dysfonctionnements au quotidien dans ces petits centres de santé. Qu'est-ce qui va être fait pour combler ce retard, pour les rembourser au plus vite? Et est-ce que finalement le Sénégal était prêt à la mise en œuvre de la CMU?
Bon, effectivement, la couverture maladie universelle aujourd'hui est l'un des viatiques que le gouvernement a offert au Sénégal. Mais vous savez, toute chose nouvelle, il y a des difficultés. Il y a des difficultés parce que les acteurs à la base, peut-être, n'étaient pas suffisamment préparés. Au sommet également, il y a eu certains aspects, peut-être, qui n'ont pas été suffisamment pris en compte. Mais ce qui est important, c'est que aujourd'hui, il y a une volonté réelle de résoudre ces problèmes. Volonté réelle qui s'est manifestée déjà par un recouvrement d'une partie importante de ces arriérés. Effectivement, tout n'est pas recouvré. Mais toutes les dettes des années 2016 et 2017 ont été soldées. Mais nous avons aujourd'hui la situation de l'année 2018. Il y a encore des factures impayées. C'est pourquoi on est en train de trouver des solutions pour réduire ces lourdeurs et également réduire les délais. Parce que l'objectif de la CMU, c'était de pouvoir rembourser au mois le mois. Mais on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, cela n'est pas le cas. Donc, ça veut dire qu'il y a tout un travail à faire pour mieux huiler la machine. Parce qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est que la CMI soit pérenne. Et tel que cela a été démarré, si des corrections ne sont pas apportées, effectivement, ça peut poser des problèmes par rapport à la pérennisation.
Igor Strauss, ce problème de remboursement des structures de santé dans le cadre de la CMU, est-ce que c'est une question qui se pose fréquemment?
Oui, il touche toutes les structures, petites et grandes, et principalement les services de pédiatrie. Alors, l'État sénégalais a demandé un audit aux agences des Nations Unies pour identifier les blocages et les dysfonctionnements. Parmi ces dysfonctionnements, une aberration. Les fonctionnaires bénéficient de la CMU alors qu'ils sont déjà pris en charge par l'État en tant que fonctionnaires. Le Sénégal veut donc remédier à tout cela, éviter les doublons, accélérer les remboursements, car c'est l'avenir de la CMU qui est en jeu. Il serait dommage que les populations les plus démunies ne puissent plus y avoir accès.
Yeah. pendant 8 mois tu m'as porté des nausées, vomissements, nuit blanche et coups de pied, c'est pour les souffrances sur la table, le sang que tu as versé, tes larmes qui ont coulé, les jours où tu m'as bercé. Je veux te dire je t'aime pour toutes les couches que t'as changées, te dire je t'aime pour tout le lait que tu m'as donné. Je pense aussi aux insomnies, aux peines que j'ai causées. Je t'aime pour les tracas, les économies que j'ai spoliées. Je veux te dire je t'aime pour m'avoir choisi moi et pas un autre. Je t'aime toi, mes soeurs, mon père, et j'aime aussi les nôtres. Je sais que rien n'est facile, rien n'est évident. Le vieux paradis parti prématurément. Fallait joindre tous les bouts et prendre plein de coups malgré les hauts, les bas. T'es resté digne jusqu'au bout. Je veux te dire je t'aime, tu m'as aidé à grandir. Mais quelque chose me gêne, yeah, laisse-moi te dire.
Vous écoutez Priorité Santé sur RFI aujourd'hui. Nous sommes dans la région de Kolda, en Haute-Casamance, pour parler de santé maternelle. Alors, où en est l'accès aux soins des femmes et des jeunes filles dans l'une des régions les plus pauvres et les plus enclavées du Sénégal? Suite de ce reportage d'Igor Strauss, après la case de santé et le poste de santé, nous continuons à progresser dans la pyramide sanitaire et nous voici à présent dans la maternité du centre de santé de Kolda avec Fatou Bissé-Kassé, maîtresse sage-femme depuis 2012.
En moyenne, on fait le mois 190 à 200 accouchements. Ça dépend des périodes.
C'est beaucoup.
Trop. Tu descends dans les 24 heures, tu as en moyenne 9 à 12 accouchements. Pour une seule sage-femme par garde. Les gardes se font de 12 heures. C'est des gardes de 12 heures, matin et soir. Celle-là, c'est Madame Dema. C'est une sage-femme sortie en 2009.
Bonjour.
Bonjour.
Ça va madame?
Ça va bien, merci.
Alors depuis 2009, qu'est-ce qui a changé fondamentalement ici dans la maternité?
Il n'y a pas grand changement au niveau du centre de santé.
Et au niveau du travail, au niveau du personnel?
Au niveau du personnel, de même qu'au niveau du travail. Parce que personnellement, on a un petit nombre seulement qui a été augmenté. Actuellement, comme la manière dont on roulait presque à 6 sages-femmes. Alors que ça, c'est pas intéressant. Tu passes la garde, mon petit, tu descends, 24 heures après, tu reviens pour faire le service général.
Mais est-ce que ça ne vous décourage pas, ça, vous, les sages-femmes? Est-ce que ça ne crée pas des crises de vocation?
Si, ça crée des crises de vocation, parce que tu ne prends pas le temps de récupérer, alors que tu es la seule sage-femme à gérer la maternité, gérer les urgences, gérer les grossesses pathologiques, et ensuite faire les consultations gynécologiques. C'est pas aussi intéressant.
Donc, il y a certaines sages-femmes qui quittent leur poste ou des choses comme ça? Ça arrive, ça?
Moi, je peux dire que j'ai quitté mon poste à cause de la famille. Parce que là-bas aussi, tu n'as pas une vie de famille, alors que les conditions de travail aussi ne sont pas les meilleures. Depuis 2009 que je suis sortie, je ne suis pas recrutée. Je suis actuellement contractuelle au niveau du ministère de la Santé. On n'est pas encore intégré à la fonction publique. Ça aussi, ce n'est pas aussi intéressant. Tu travailles dans des conditions pénibles qui sont un peu catastrophiques. Les motivations n'y suivent pas. C'est un peu décourageant.
Et avant d'être sage-femme, vous êtes mère également.
Voilà.
Femme, mère. Est-ce que quand vous voyez ces conditions d'accouchement, ça vous donne toujours envie de faire des enfants ou pas?
Non, non, ça me décourage. Maintenant, j'ai adopté mon cas d'arrêter parce que j'ai 3 enfants qui sont sous mes salles. J'ai décidé mon cas d'arrêter de faire des enfants parce que ce n'est pas intéressant.
Non, merci beaucoup.
D'accord.
Bon courage, merci.
Merci. Ça, c'est la maternité.
Ouais.
On va voir les suites de couches.
Ah, c'est compliqué, hein, la vie pour les sages-femmes, là. Vous voyez, vous, pareil, même question, vous voyez beaucoup de sages-femmes qui se découragent, finalement?
Oui, parfois, il y avait des contractuels qui étaient là, des salaires non régularisés, elles ont fini par partir.
Est-ce que c'est ce manque de personnel et et cette absence de plateau technique peut parfois mettre la vie des femmes en danger, ici?
Oui, c'est possible. C'est très possible. Parce que une personne qui est là débordée, qui fait un travail que 3 ou 4 personnes devraient faire, c'est pas évident. Tu as besoin d'un matériel qui n'est pas disponible, tu n'as pas un spécialiste, tu n'as pas de bloc, c'est pas facile. Bonjour, ça c'est les suites de couche. Ces bonnes dames ont accouché ici, leurs enfants ont accouché ici et leurs petits-enfants vont accoucher ici.
Ah donc la dame là, vous avez accouché. Bonjour madame.
Bonjour, bonjour.
Ça va?
Ça va bien.
Vous avez accouché ici vous-même?
Oui, j'ai accouché ici mes 9 enfants.
Il y a combien de temps ça?
Ah, ça fait 30 ans. Hein? Le garçon fait partie des enfants que j'ai accouché ici. Et aujourd'hui, j'ai amené sa femme pour accoucher ici. Là, un garçon.
Un garçon? Hein?
Un garçon, oui.
Ah, c'est un garçon?
Oui, oui, c'est un garçon, oui. Je suis content. Ah oui, c'est comme ça? En Afrique, c'est comme ça. Il faut faire des enfants.
Mais à votre belle-fille, vous allez lui conseiller quoi ? De faire beaucoup, beaucoup d'enfants ou de limiter les naissances ?
Oui, oui, c'est de limiter les naissances. Parce qu'actuellement, la vie est très chère. Actuellement, au Sénégal, tout le monde est fatigué. On ne peut pas avoir beaucoup d'enfants parce que la vie est chère. Mais ils sont nous aider hein, parce que les hôpitaux, là, tu n'as pas vu. Il n'y a que 4 chambres ici. Ils n'ont pas de lit, pas assez de chambres. Il n'y a rien, il n'y a pas de matériel. Et aussi, les sages-femmes, là, c'est des bonnes dames parce qu'ils travaillent matin et soir. Mais ils ne sont pas motivés. Être infirmier ou sage-femme, c'est très dur. Tu ne dors pas bien, tu ne manges pas bien. Tout le temps, il y a des malades. Tout le temps, il y a des malades. Avec ça, on doit les payer bien. Si tu dis que ton pays est émergent, les malades doivent se soigner. Hein? Les enfants doivent aller à l'école. N'est-ce pas? Tu dois manger à ta faim. Mais maintenant, ici, il n'y en a pas. Où est l'émergence? Est-ce qu'il y a l'émergence? Il n'y a pas l'émergence. Mm-hmm. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Bonne journée.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Igor Strauss, alors on sent cette lassitude, hein, un grand désarroi chez les sages-femmes.
Tout à fait, c'est vraiment le sentiment qui domine chez tout le personnel soignant, sages-femmes et infirmiers. Ils sont débordés et travaillent dans des conditions difficiles, sans moyens. Fatou Bissé-Cassé, la maîtresse sage-femme, me parlait du manque de kits d'accouchement qui oblige les sages-femmes à réutiliser du matériel qui n'a pas été stérilisé, faute de temps. Tout cela concourt à un ras-le-bol général.
Alors, autre sujet que vous avez abordé avec Fatou Bissé-Cassé, maîtresse sage-femme du centre de santé de Kolda, il s'agit des grossesses précoces et là encore, Igor Strauss, un constat alarmant.
Oui, même s'il est difficile d'avoir des chiffres précis, pour Fatou Bissé-Cassé, il n'y a pas de doute. Les grossesses précoces sont de plus en plus fréquentes, elle en voit tous les jours au centre de santé. Parfois, il s'agit de très jeunes filles, d'à peine 12 ans. Et ce qui est choquant, c'est que de nombreux villageois, totalement privés d'accès à l'information en raison de leur isolement, eh bien, ne perçoivent pas les dangers que cela représente pour les jeunes filles. Beaucoup d'entre elles décèdent suite à des accouchements compliqués, car elles ont encore des corps de fillettes. D'autres survivent, mais avec des séquelles terribles, comme les fistules obstétricales.
Et justement, Igor, vous avez rencontré l'une de ces jeunes filles victimes de fistules obstétricales.
J'avais 15 ans lorsque j'ai eu la fistule. Je l'ai eu lors de l'accouchement de mon premier enfant.
Et vous aviez accouché où?
J'ai accouché dans un village à la frontière avec la Guinée-Bissau.
Et qu'est-ce qui s'est passé du coup?
Ma grossesse avait 10 mois. Donc le travail a commencé à la maison. On m'a retenu à la maison pendant 2 jours par mes parents. Ensuite, je ne pouvais pas accoucher. Je suis venue au niveau du poste de santé. Je suis restée là-bas aussi pendant 2 jours. Je ne pouvais pas accoucher. Ensuite, ils ont tout fait. J'ai accouché finalement. Donc, en fait, mon enfant, c'était la première grossesse. Mon enfant était vraiment décédé. L'enfant est mort à la suite de cet accouchement. C'est depuis lors que j'ai commencé à voir, à remarquer mes urines couler. Donc, lorsque j'ai accouché, j'ai quitté l'hôpital pour repartir au village. C'est en cours de route que j'ai senti tous mes habits mouillés. Arrivé à la maison, j'ai montré à ma maman, elle m'a dit que c'est une maladie qui est à l'intérieur. Donc, on va aller voir un marabout, un tradit praticien qui va te guérir. J'étais jeune, je n'avais que 15 ans, je ne savais rien du tout. Ma maman m'a amené voir un tradit praticien qui m'a donné des médicaments, des feuilles, des racines, pendant plusieurs années. Et une fois, une amie à ma maman a entendu le communiqué à la radio, sachant que j'avais ce problème. Elle est venue elle a informé ma maman. Et c'est ainsi que ma maman m'a amené pour m'inscrire au programme. J'ai eu vraiment une première intervention.
Et comment ça se passait avec votre mari? Est-ce que vous avez pu lui en parler? Est-ce qu'il était au courant?
La première année, mon mari, vraiment, quand il a appris que je souffrais de quelque chose qu'il ne connaissait même pas lui aussi, la première année, j'ai souffert. J'ai souffert. Vraiment, lui, il a quitté le village pour aller travailler au nord du Sénégal. Je suis restée avec ma maman pendant des années. Et c'est son grand frère qui est parti le récupérer, le prendre, le ramener, le conscientiser. C'est lui et ma maman qui m'ont amené pour l'intervention chirurgicale. Et depuis lors, vraiment, il s'occupe de ça. Il commence à me fréquenter.
Mais alors, vous aviez quel âge lors de l'intervention chirurgicale?
J'avais 20 ans, ma première intervention. Donc, j'ai vécu avec ça pendant 5 ans, oui.
Et du coup, pendant ce temps-là, au village, est-ce que vous avez été victime de stigmatisation?
Ok. En fait, pour moi, j'étais très intelligente. Comme j'étais jeune, je me battais pour camoufler l'odeur. J'utilisais des couches. Et chaque fois, je prenais la fuite pour aller dans les toilettes, me nettoyer. Mais quand elles ont commencé à comprendre que j'ai dégagé une odeur, il y a quelques-unes qui ont commencé à me taquiner, à me marginaliser. Moi, je m'appelle Mame Cissé Diop. Je suis point focal du programme Fistule au niveau de l'ONG FODE, qui est basée dans la région de Kolda.
Est-ce que justement le problème des fistules chez les femmes est un problème récurrent ici?
Oui, le problème des fistules dans notre région est un problème récurrent. Parce que la région de Kolda, nous nous disons souvent que c'est une zone pourvoyeuse de fistules. Parce que c'est une zone où les pesanteurs socioculturels sont là. Les pratiques qui favorisent la fistule existent toujours au niveau de la région de Kolda.
Quelles sont-elles, par exemple?
Les pratiques, nous avons l'excision, nous avons les mariages précoces, les grossesses précoces. La répartition des structures sanitaires au niveau de la région pose un peu de problème. Nous avons des localités très enclavées où, par exemple, le déplacement pose beaucoup de problèmes aux dames. Il y a les croyances qui sont là, les croyances traditionnelles. Une femme qui est en état de grossesse ne doit pas aller vers les structures sanitaires. Elle doit être surveillée par une tradipraticienne. Soit les femmes qui sont en état de grossesse ne doivent pas aller parce qu'au niveau des structures sanitaires, c'est des hommes qui sont là-bas. Les gens pensent que l'homme ne doit pas regarder une femme nue. Il y a toutes ces croyances qui existent au niveau de notre région. Et ça ne concourt pas, ça ne participe pas à la réduction. Et nous, notre combat, c'est vraiment de parler, de discuter avec les femmes, les conscientiser pour qu'on sache que vraiment la femme doit commencer sa sexualité à un certain âge. Il faut être adulte, être forte physiquement pour pouvoir supporter une grossesse.
Donc ça touche principalement des femmes jeunes, c'est ça?
Oui, en fait, quand je regarde ma base de données, la plupart c'est des femmes qui ont moins de 20 ans. Même si vous recevez une femme de 30, 40 ans, elle te dit, je vis avec ça depuis 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans.
Est-ce qu'il y a encore de la stigmatisation autour de ces femmes victimes de fistules?
Oui, parce qu'on l'a taxée de tout. La communauté ne connaissait pas la fistule.
Alors, quelles étaient les croyances? Que disait la communauté?
La communauté disait que ça, c'est une mauvaise femme. Elle est partie voir des hommes. Elle n'est pas fidèle. C'est à cause de ça qu'elle a la fistule. Ou bien on la taxe d'entrefoufagie. Parce que la communauté, elle-même, elle ne connaît pas. Son entourage ne connaît pas. Ses amis ne connaissent pas. Ses parents ne connaissent pas. Et on commence à la marginaliser.
Excision, mariage et grossesse précoce qui aboutissent souvent à des fistules et donc à la répudiation. C'est la triple, voire la quadruple peine pour ces jeunes filles.
Oui, et le pire, c'est que le nombre de cas est en constante augmentation dans la région de Kolda. Alors heureusement, grâce à l'ONG FODE et le soutien financier du Fonds des Nations Unies pour la population, les femmes sont désormais prises en charge par l'urologue de l'hôpital de Kolda. Parfois, des équipes de Dakar viennent en soutien. Tout est gratuit, même le transport et l'hébergement pendant le temps de l'opération.
pour permettre à un maximum de femmes d'avoir accès aux soins.
Igor Strauss en a compris hein, qu'il y a d'énormes efforts à faire en matière de sensibilisation. Mais concrètement, comment les jeunes filles sont-elles informées, sensibilisées à ces questions liées à la sexualité? Est-ce que cette thématique est par exemple abordée sur les bancs de l'école?
Bien, certaines questions sont abordées à l'école en sciences de la vie, mais cela reste très général. Du coup, le GIEP, le groupe enseignement de la population, une ONG sénégalaise, organise dans les collèges des sessions éducatives et a créé 650 clubs d'éducation à la vie familiale dans 650 établissements du pays. Le but est de pallier les carences du système scolaire en matière d'éducation sexuelle. J'ai pu assister à la session éducative d'un professeur dans un collège de Koldin avec des jeunes de 15-16 ans.
Bonsoir, cher Jeannette.
Bonsoir.
Aujourd'hui, on va essayer de dérouler une leçon qui aura pour titre les grossesses précoces. Maintenant, vous, est-ce qu'il vous arrive des fois de voir ce genre de cas? Oui. Voilà. Il y en a. Il y en a dans les milieux scolaires. Maintenant, nous voulons connaître quelles sont les causes.
Le manque d'éducation.
Manque d'éducation.
La façon dont les filles s'habillent.
Très bien. Elle a parlé d'une chose intéressante. La façon dont les filles s'habillent. Quand une fille s'habille correctement, en général, les jeunes garçons n'ont pas le courage de lui dire quelque chose. Mais il suffit tout simplement que vous vous habillez de façon indécente. C'est ça qui pousse les jeunes garçons à parfois dire certaines choses. À mon avis. Ça existe ou ça n'existe pas?
Ça existe.
Voilà. C'est bon? La façon de s'habiller.
Donc toujours ces mêmes élucubrations pour culpabiliser les jeunes filles, discours tenus y compris par certains professeurs qui pointent la soi-disant responsabilité des jeunes filles.
Oui, alors qu'avant cela, les jeunes ont parlé du manque d'éducation, de la pauvreté et du manque d'information. Mais ce qu'a retenu ce professeur, bien, c'est l'accoutrement de certaines jeunes filles jugées indécentes. Alors, tenir de tels propos à des jeunes est inacceptable, mais ce n'est malheureusement pas le dérapage isolé d'un professeur. Souvenez-vous, c'était en mars dernier au Sénégal et notre correspondant à Dakar en parlait sur cette antenne.
À l'aise et sûr de lui, le professeur Songhe Diouf, bien connu des téléspectateurs de la TFM, la télévision du chanteur Youssou N'Dour, a-t-il dérapé? Lors d'une émission de débat, le chroniqueur a expliqué que ce sont les femmes qui, par leur comportement, provoque le viol.
Le pauvre qui va tomber dans le panneau, il prendra 10 ans. Ouais. Celle qui a tout fait pour être violée et qui a violé toutes les normes morales, sociales, religieuses, elle continue à errer. Qu'elle revienne à sa dignité.
Les propos du professeur Diouf ont enflammé les réseaux sociaux. Avec une forte division, certains l'ont défendu, estimant que la liberté d'expression est essentielle. D'autres l'ont critiqué, notamment un collectif de femmes qui a décidé d'aller plus loin en déposant une citation à comparaître. Collectif représenté par Fatima Sall.
Ces propos sont constitutifs d'une apologie de viol. Il est malheureux de constater que depuis que ces propos ont été tenus, aucune autorité sénégalaise ne s'est manifestée, raison pour laquelle nous avons décidé, en tant que citoyens sénégalais, de porter cette affaire devant les tribunaux afin, je l'espère, de voir le professeur Songhe Diouf condamné.
Si le débat est vif sur le net, le Conseil de régulation des médias a mis 4 jours pour condamner, sans prendre de sanctions, les propos de Songhe Diouf. Et aucun ministère, notamment celui de la famille, du genre et de la femme, n'a réagi. Guillaume Thibault, Dakar, RFI.
Et après le scandale Songhe Diouf de mars dernier, un autre événement a créé la polémique au Sénégal. Le rapport de Human Rights Watch sur les abus sexuels à l'école, il a été publié au mois d'octobre cette année.
Oui, un rapport qui parle de certains enseignants qui abusent de leur position d'autorité pour harceler les filles et essayer d'avoir des relations sexuelles avec elles. Et là encore, les autorités sénégalaises ont minimisé les faits, expliquant que tout cela était très exagéré.
Du coup, Igor Strauss, comment les jeunes ont-ils accès à la véritable information sur toutes ces questions liées à la sexualité?
Bien, souvent auprès d'autres jeunes qui ont été sensibilisés par des ONG ou dans des maisons de quartier. À Kolda, par exemple, il y a le centre de conseil pour ados et jeunes qui est très fréquenté et où il est possible d'avoir accès aux informations grâce à la plateforme virtuelle Clic Info Ado qui répond à toutes les questions qu'ils se posent. Et puis, il existe désormais une nouvelle ligne verte au Sénégal que les jeunes peuvent appeler gratuitement. On faisant le 200-365. Pour l'instant, c'est un succès. Il y a déjà eu plus d'1 million d'appels.
Salut,
qui circulent demain. La plateforme d'information et de renseignement sur les questions de santé de la reproduction, qui trouvera des réponses à toutes les questions que tu te poses sur les règles, VIH, la sexualité, la puberté et bien d'autres choses. Alors, bienvenue et bonne navigation.
Moi, je m'appelle Mandjaye Petit-Badji, je suis consultant aux Nations Unies, au bureau pays, mais je suis également CEO d'une plateforme qui s'appelle Parolojeune. Ce n'est pas une ligne verte qui est venue pour remplacer ce qu'un prestataire pourrait faire, mais c'est une ligne verte qui permet aux jeunes au moins d'avoir 95% des réponses qu'ils s'attendent. Alors aujourd'hui, la technologie nous permet un peu de préenregistrer les réponses qui peuvent ne pas satisfaire celui ou celle qui appelle, mais on a travaillé avec toutes les composantes qui travaillent dans la santé de la reproduction, les médecins, les pères éducateurs, pour au moins donner le maximum de réponses à ça. Et l'autre chose qui est également fondamentale dans cette ligne verte, c'est que les jeunes maintenant connaissent là où se trouvent les services. Les services existent ici au centre Conciado. Vous avez une sage-femme, vous avez des médecins qui peuvent venir pour les consultations. Vous avez tout le strict minimum. Et maintenant, c'est le moment pour les jeunes de se lever et de venir vers les services.
Est-ce qu'il y a des sujets plus tabous que d'autres? Est-ce que vous abordez vraiment tous les sujets? Je pense à un sujet qui est encore plus tabou peut-être, c'est l'homosexualité.
Oui, on aborde les questions sur l'homosexualité parce que c'est des questions qui reviennent beaucoup également chez les jeunes. Donc nous, on est obligés pas de dire c'est tabou. Non, c'est pas tabou. Et les jeunes qui te posent des questions sur leur sexualité ont besoin de vérité. Et pour moi, les informations avant, elles étaient biaisées parce qu'elles n'étaient pas bien données. Et les jeunes avaient...
C'était surtout très moralisateur. On plaidait pour abstinence, fidélité.
Fidélité. Alors que tout le monde sait, aujourd'hui, quand on parle de grossesse précoce en milieu scolaire, ça veut dire forcément que les jeunes sont sexuellement actifs. Non, la moralité, moi, je pense que si les parents ne peuvent pas jouer leur rôle, aujourd'hui, c'est pas un programme qui peut jouer ce rôle-là. C'est peine perdue. Et je pense que la grosse bataille, c'est ça. Donner la vraie information aux adolescents et jeunes et leur faire confiance pour qu'ils puissent changer de comportement. Mais si on continue à axer nos programmes sur le moral, sur oui, nous on appartient à une famille telle ou on fait pas ça, c'est vraiment du perte de temps. Tous les jeunes sont sur la toile, sur les réseaux sociaux, ils voient des choses que les parents ne peuvent pas voir. Ils ont des téléphones super puissants où ils peuvent aller chercher rapidement porno et ils trouvent ce qu'ils veulent. Et pour moi aujourd'hui, les programmes doivent aider les gens à comprendre cela. C'est-à-dire oui, j'adore les pornographies, pourquoi? Et qu'est-ce que ça peut changer? Et qu'est-ce que ça peut impacter? Et là, si le jeune comprend, lui, à lui de prendre la décision. Mais tu lui dis, non, laisse tomber, c'est pas bon, blablabla. C'est pas une communication, ça. On juge. Et si on juge, la personne va fuir. Donc ton programme va être biaisé. Ce que tu devais savoir pour que le programme soit solide et puisse servir à des milliers de jeunes, tu le sauras pas.
Nous avons composé ce numéro pour connaître les fléaux qui sont là-bas contre les grossesses précoces, et le VIH, tout ça, le cycle menstruel aussi. C'est utile pour nous, les jeunes filles qui ne s'approchent pas à leurs parents, qui ne parlent pas à leur maman. C'est difficile pour nous, mais ici, si tu ne vas pas demander à ta maman, mais il y a la ligne verte du Guinéma 200-365 que tu vas taper et recevoir des informations sur la santé de la reproduction aussi.
Et alors vous, personnellement, quel est le conseil, le renseignement qui vous a été le plus utile en appelant la ligne verte?
Surtout les cycles menstruels aussi. Tu as des maux de ventre, des vomissements et tu ne sais pas comment faire. Il y a d'autres qui prennent des médicaments et on ne sait rien sur ça aussi. Et c'est pour cela qu'on tape la ligne verte pour savoir quelque chose en ça aussi. C'est très utile à nous aussi.
200-365, c'est donc le numéro gratuit qu'il faut composer pour tout renseignement sur les questions de sexualité. Igor Strauss, comment expliquez-vous qu'il soit toujours aussi difficile d'aborder ces questions de sexualité?
Il y a l'isolement et le manque d'accès à l'information qui font que des croyances surréalistes perdurent. Je pense aux femmes victimes de fistules qui seraient anthropophages, cela va quand même très loin. Et puis, il y a toutes ces campagnes de sensibilisation pour les jeunes qui sont complètement déconnectés de leurs préoccupations, ou alors dans lesquelles on n'explique rien du tout finalement pour ne pas choquer. J'ai assisté à une séance sur l'excision où le mot clitoris n'a jamais été prononcé et où on évitait finalement de parler du sujet. Les jeunes en sont sortis sans rien avoir appris. Et malheureusement, eh bien tout ceci favorise les comportements à risque au lieu de les changer. Il faut donc insister sur l'éducation, comme le dit Marital Diop de l'ONG Enda Santé, qui mène un programme de lutte contre la mortalité maternelle et
infantile dans la région de Kolda.
À la base, il faut beaucoup travailler sur l'éducation à la base et continuer la sensibilisation parce qu'il y a des gens qui sont complètement réfractaires. Si vous discutez avec eux, ils vous sortent des idées que vous avez du mal à comprendre. Ils ont leur point de vue, on a notre point de vue et souvent il y a choc. On a essayé la loi, on a essayé la répression, mais on a vu que ça ne marchait pas du tout. Je donne l'exemple de l'excision. On a essayé la répression, mais jusqu'à présent, c'est un phénomène qui est là, les choses continuent à se faire. Et ça, c'est même, je dirais, aggravé, parce que maintenant, on excise les fillettes au berceau. Par exemple, vous voyez ici un père de famille qui veut donner sa fille à 15 ans en mariage. Vous allez lui parler pour lui dire qu'il faut la laisser à l'école. Il faut lui laisser la possibilité d'avoir un avenir meilleur que celui de mère au foyer, etc. etc. Il vous dit que peut-être, mais moi, en premier lieu, j'essaie d'éviter la honte à ma famille. Pour eux, le mariage précoce est une solution aux grossesses hors mariage. Alors que je me dis que ces deux mots, c'est la peste et c'est le choléra. C'est pour ça qu'on travaille énormément avec les jeunes. Si eux, ils changent de mentalité, demain, après-demain, on ne va pas se retrouver avec des parents qui donnent leur fille en mariage à 15 ans.
Mais j'étais hier dans une séance de sensibilisation dans un collège de Kolda pour des jeunes filles de 15-16 ans. Mm-hmm. On leur parlait encore d'abstinence, de fidélité. Il faut peut-être changer de logiciel. Nous sommes en 2018, il y a l'accès à Internet, l'accès aux sites pornographiques partout. Il faut peut-être revoir le discours, non ?
Je sais, il faut revoir le discours, mais il faut également considérer l'environnement où on se trouve. Personnellement, moi, quelles que soient mes convictions, il y a des discours que je n'oserais pas tenir devant des jeunes filles. Si aujourd'hui je leur dis que oui, il faut vous protéger quand vous avez des rapports sexuels. Une fois que vous faites ça, vous allez vous retrouver avec les imams, les leaders religieux, les leaders communautaires. Vous allez vous les retrouver à vos dos. Ils vont dire que vous êtes en train de pervertir la jeunesse. Alors que dans la réalité, on sait tous que les jeunes ont une vie sexuelle précoce et très active. Mais la bienséance, les réalités culturelles ne nous permettent pas d'aller dans une école, de regrouper des jeunes et de leur dire que vous avez la liberté d'avoir une vie sexuelle active, mais il faut vous protéger. On ne peut pas le faire.
Donc c'est une immense hypocrisie finalement.
On peut le dire comme ça. C'est triste, mais c'est la réalité. On ne peut pas le faire. Parce qu'en fait, c'est un tabou. Donc même les mots qui sont utilisés au niveau des langues locales pour le prononcer, c'est compliqué, ça heurte. Je vous donne l'exemple d'une blague qu'on raconte. Une femme est allée voir un médecin, elle avait une IST, une infection sexuellement transmissible. Donc, il lui dit, au lieu de dire carrément sexe en wolof, on dit kanam. Kanam, ça veut dire littéralement visage. Donc, il lui dit, il faut mettre cette pommade-là sur votre visage, entre guillemets. Mais visage, quand ça se dit en langage codé, entre guillemets, ça veut dire sur le sexe. La femme est rentrée chez elle, elle a commencé à mettre la pommade sur son visage. Elle est revenue une semaine après avec une IST qui n'était absolument pas réglée et plein de boutons sur le visage. Pour vous dire tout le tabou qui entoure tout ce qui est autour de la sexualité ici dans le pays. Donc, ça ne facilite pas les choses, mais on ne peut pas ne pas prendre en compte cet environnement-là. Parce qu'on risque de se retrouver avec des fatwas pour un mot que vous avez prononcé ou une personne que vous avez heurtée. C'est pour ça qu'on est obligé d'y aller avec des pincettes.
Mais alors du coup, il faudra combien d'années pour que les choses changent, alors que la situation est urgente?
Il faut qu'on s'y mette. On ne va pas se dire, c'est pas possible, on ne va pas le faire, on ne pourra pas y arriver, on va baisser les bras. On ne peut pas faire ça.
La santé maternelle en Casamance, c'était un reportage d'Igor Strauss, réalisé par Didier Bleu, en partenariat avec le Fonds français Muskoka. Demain, nous nous retrouvons à Dakar à l'occasion du premier forum Galien Afrique et de la remise du prix Galien International. À demain et très bonne journée à l'écoute de RFI.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre